Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, ravi de vous retrouver avec nos invités Geoffroy Lejeune et Olivier d'Artigol, face à face, en direct. Bonsoir à bonsoir tous les deux, c'est un plaisir de vous réunir.
Quel enthousiasme, ça m'a réveillé.
Mais on ne dort pas dans cette émission malgré l'horaire, Olivier, il faut le savoir. Et voilà, vous allez le constater, on entre dans les sujets, les deux pieds en avant, parfois c'est un tacle glissé, vous allez le comprendre immédiatement. Mais à vous proposer en tout cas, et je suis ravi de vous accueillir Geoffroy Lejeune et Olivier d'Artigol. Faut-il instaurer une prime pour les travailleurs français dans les métiers en tension, c'est-à-dire dans les secteurs qui n'arrivent pas à recruter? Dans un sondage CSA CNews, vous êtes 77%, on va le voir, à répondre oui. Est-ce que cela veut dire, Geoffroy Lejeune, qu'il faut donc des primes pour encourager une partie de la population à travailler? On doit payer les gens pour qu'ils travaillent. En plus des salaires, bien sûr.
C'est le principe, sinon. Mais
Oui, bien sûr, en plus des salaires, pour les encourager.
Moi, je vais être radicalement dans le sens du sondage. Alors, c'est pas hyper courageux, hein, mais je suis pas à contre-courant. Oui, pourquoi, en fait? Moi, je ne supporte plus la petite musique qu'on nous serine depuis maintenant quelques mois, quelques années, peut-être même quelques décennies d'ailleurs, sur le fait qu'il y a des métiers que les Français veulent pas faire et que donc il faudrait les laisser aux immigrés. C'est une petite musique qui a conduit le patronat, ça va faire plaisir à Olivier, à encourager l'immigration pour faire pression à la baisse sur les salaires dans les années 60, 70, 80, 90. C'est une vieille ritournelle. Voilà, ça c'est ma minute communiste. Mais sur
restez
ça.
Restez-en là, c'est très bien.
Là-dessus, malheureusement. Ça ne s'arrêtera pas là.
Malheureusement, là-dessus, ils ont raison. Et moi, je trouve que c'est très pernicieux comme logique. Petite musique qui a conduit les libéraux aujourd'hui au pouvoir à expliquer qu'en fait, maintenant, il faut le rentrer dans un cadre, parce qu'après tout, c'est pas normal que les gens soient clandestins dans les cuisines, etc. Vous connaissez l'histoire par cœur. Moi, il y a juste un élément avec lequel je suis pas d'accord dans toute la démonstration, c'est les Français ne veulent plus faire ce travail. Je ne suis pas d'accord. Je sais que les Français ne veulent pas. Si c'est plus rémunérateur de rester chez soi à ne rien faire que de travailler, donc ça c'est un problème d'assistanat, de prestations sociales, etc., contre lequel je pense qu'il faut lutter, et si ces métiers-là ne sont pas valorisés à leur juste mesure. C'est-à-dire que, par exemple, pour rester dans l'exemple de la restauration, travailler en cuisine, faire la plonge, faire le service, ce sont des métiers très durs. Moi, j'aime beaucoup les restaurants parisiens et je les fréquente énormément, je parle énormément avec ces gens-là, et ils sont... J'allais dire héroïque, peut-être que le terme est un peu fort, mais ils sont très courageux. Physiquement, ils sont très courageux. Ils font des métiers difficiles. Donc oui, je suis d'accord pour le fait de les revaloriser, et comme ça, on évitera cette équation mortifère.
Mais Olivier d'Artigol, il n'y a pas que la restauration. Dans les métiers en tension, il y a les chauffeurs routiers aussi, bien les sûr, conducteurs. Là, ça fait partie, le transport en commun, ça fait partie de ces métiers en tension. La formation, l'enseignement,
et les conducteurs en font partie, l'hôtellerie. Les conducteurs de bus scolaires, nous en avions parlé sur une émission. Les métiers du lien et du soin.
La santé, bien sûr.
La santé, les paramédicaux, le BTP, les personnes qui viennent faire le ménage très tôt le matin et qui reviennent très tard le soir avec ces journées donc impossibles. Le problème qu'on a, c'est qu'on a pensé au moment du Covid et sur la bascule, vous savez qu'on discutait du monde d'après, que ces métiers essentiels, frappé d'invisibilité sociale, médiatique, dont on parle peu au final, si ce n'est quand il y a des crises, allaient être pour de vrai revalorisés, reconsidérés, des métiers essentiels, frappés de pénibilité, très mal considérés et très mal payés, il faut dire ça. Moi, j'ai eu récemment quelqu'un qui travaille dans un EHPAD qui me dit « mais 15 ans, 1750 euros ». Avec 1750 euros, le salaire médian en France est à 1800, on ne peut pas vivre correctement. Le reste à vivre, qui est la question de la dignité des vies, est véritablement, chaque semaine est un défi à relever. Je suis contre le principe des primes. Parce qu'une prime, c'est aléatoire, parce qu'on a aussi besoin de cotisations sociales pour faire sa retraite, pour se sécuriser, le salaire socialisé. Il y a un problème dans notre pays de trappe à bas salaire avec une smicardisation d'une trop grande partie du salariat, étant donné qu'on a des exonérations de cotisations sociales patronales jusqu'à 3,5 SMIC. beaucoup d'économistes, et pas le couteau entre les dents, disent qu'à un certain niveau, ces exonérations n'ont aucun effet. Ce sont des trappes à bas salaire. Il faut donc poser dans notre pays la question de la rémunération du travail et donc du salaire.
Augmenter les salaires.
Oui, bien
augmenter
sûr.
Augmenter tous les
bien
salaires sûr. Et notamment les métiers en tension. Une prime, même si
mais
elle est éphémère,
mérite, des...
ce n'est pas suffisamment attractif
non, et les
pour
personnes...
encourager les gens à aller sur,
vous
des,
savez,
sur des métiers
à France,
en particulier.
Vous savez, à France, emploi, aujourd'hui, plus tard France Travail, c'est ce qu'on appelle l'ORE, offre raisonnable d'emploi. Il y a des offres raisonnables. Il y a des offres d'emploi qui ne sont pas raisonnables. Quand on cherche un manutentionnaire à mi-temps, à 80 bornes de chez lui et pour un salaire de misère, mais il y a des personnes aussi qui disent « je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver ».
Alors, je vous cède la parole et on continue à échanger sur ce sujet dans cette émission, dans cette dispute. Mais écoutez d'abord Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries, qui estime, à la lumière de ce sondage très intéressant, très significatif, que la situation est tout de même assez surréaliste.
En hôtellerie-restauration, entre la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques qui vont arriver, il y a à peu près 30 000 offres d'emploi disponibles, là, à l'heure où on se parle. On a déjà revalorisé notre grille et nos échelons, notre grille de salaire en 2022. Et nous, on peut leur proposer des postes. Donc, pourquoi donner une prime ? Enfin, aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire des gens qui sont à Pôle emploi, qui sont rémunérés par nos impôts, parce que c'est quand même la réalité, et pour qu'ils quittent Pôle emploi, il faut encore donner une prime. C'est le monde à l'envers.
Voilà, il faut préciser tout de même qu'aujourd'hui, c'est 7,2% de la population active en France, le chômage, selon les derniers chiffres de l'INSEE, et que c'est le plus bas niveau depuis 1982. Néanmoins, ce qu'il dit a du sens, car cela, pour encourager les gens à travailler, à peut-être sortir du chômage ou de certains acquis sociaux, on leur donne de l'argent. C'est ça, de manière très prosaïque, Geoffroy Lejeune.
Oui, mais alors, moi, je redis, je suis pour. Suis pour qu'on incite. On peut aussi baisser les aides.
Mais ça a ses limites, quand même, Geoffroy.
Non, mais ça a ses limites, en fait, notamment sur la question... sur le fond, je suis d'accord avec Olivier. Je préfère, moi aussi, l'augmentation d'un salaire à une prime qui, en effet, est aléatoire, qui peut être retirée aussi. Enfin, je préfère, dans un monde idéal... Absolument. Enfin, le sont malheureusement pas souvent, mais bon, bref. Dans un monde idéal, je suis pour. Malheureusement, l'État aujourd'hui des entreprises, l'État aujourd'hui de nos finances ne permet pas, je pense, de faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait un effet d'entraînement, notamment par rapport à l'inflation, qui serait délétère. Ça aussi, c'est une discussion d'économiste à la limite. Moi, sur le principe, j'étais pas opposé. Comment vous dire ? Il y a un truc dont on parle jamais, c'est baisser les prestations sociales pour les gens. En fait, il y a trop de gens en France qui ont intérêt à ne rien faire alors qu'ils sont en capacité d'exercer un travail. Ça, c'est aussi une réalité. Si on dit qu'il faut augmenter les salaires et revaloriser les métiers, il faut aussi dire l'autre partie. Et ensuite, comment vous dire ? Je pense que c'est même globalement, moi j'ai beaucoup espéré après la période Covid, puisqu'Olivier en parlait, qu'on ait même une réflexion sur le monde du travail tout court. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on vit, on vit dans un moment où, alors c'est vrai pour le domaine public. Mais ce que je veux dire est vrai également pour le domaine privé. Je pense qu'on est en train de généraliser ce qu'on appelle des bullshit jobs. L'expression a été inventée pour expliquer en fait, des métiers où vous ne faites rien, où vous faites, comme dit l'humoriste Gaspard Proust, éboueur de boîte mail, où vous avez des missions qui ne sont pas concrètes, où vous avez vous brassez du vent, vous faites des réunions, etc., etc. Je pense que le monde du travail est en train de se diriger vers ça. On est en train d'essayer de copier une forme de fantasme anglo-saxon. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas de l'expérience que j'ai du monde du travail aujourd'hui, pas moi personnellement, mais de ce que je vois, de ce que j'observe, de ce que je lis, etc. J'ai l'impression que de plus en plus le monde du travail est déconnecté de la réalité. Et ce que j'aime bien dans l'idée de revaloriser ces métiers en tension, c'est que ce sont des métiers où il y a une production. En fait, je pense qu'il y a eu une césure, et je ne saurais pas dater d'ailleurs à quel moment, mais à un moment donné, on a arrêté de considérer que le travail, c'était produire quelque chose, produire une richesse et être rémunéré pour la production de cette richesse. Aujourd'hui, on brasse énormément d'air, énormément de vent, et je pense qu'on est en train, et je parlais de la fonction, du domaine public, mais c'est vrai dans l'entreprise privée, on est en train, je pense, de réinventer dans ces entités une forme de bureaucratie soviétique qui est extrêmement ankylosante, extrêmement handicapante, et où en fait, on utilise des gens à ne rien faire. Et je pense que ça, c'est dramatique.
Pour combler ce déficit dans ces métiers en tension, l'immigration choisie devient-elle indispensable ?
Moi, j'ai du mal. D'abord, je pense que la priorité est de permettre la régularisation de celles et ceux qui travaillent depuis de nombreuses années dans notre pays, qui sont sans papier, qui exercent des métiers, qui ont servi notre pays, d'ailleurs à l'époque du Covid.
Donc favoriser l'immigration illégale ?
Non, je vous ai parlé des personnes qui sont aujourd'hui dans notre pays, certains depuis de longues années,
mais sans
qui travaillent qui donc participent à la richesse nationale, qui cotisent, c'est quand même extraordinaire, et qui sont sans papier, donc qui vivent tous les jours l'angoisse au ventre en savant est-ce que ma journée va se passer correctement. Et avec une partie du patronat d'ailleurs qui exploite ô combien cette situation-là. Donc moi je suis pour la régularisation de ceux qui sont déjà là. On peut réfléchir des critères, on peut réfléchir
pour les métiers en tension principalement, Olivier d'Artigol.
Non, pour ceux qui sont
parce que eux sont-ils prêts à, oui, à faire ces métiers-là plus, justement.
Non, mais ils sont déjà, ils les font. Ils ne nous ont pas attendus pour savoir s'ils étaient prêts à les faire. Ils les font des fois dans des conditions d'ailleurs pas correctes. Après, j'ai du mal à réduire une personne à sa capacité productive, à en faire simplement quelqu'un dans l'appareil production et de vendre devant sa force de travail. C'est-à-dire, je pense que le débat, il faut faire attention au débat, de ne pas simplement évoquer ces migrants comme une force d'appoint pour après, d'ailleurs, leur dire « bon, mais merci, c'était fort sympathique, mais maintenant, il va falloir retourner chez vous ». Il y a quelque chose dans ce discours-là qui choque la manière dont on doit concevoir une personne humaine, qui n'est pas, qu'on ne peut pas réduire à son potentiel de travail, de productivité. Voilà. Sur le travail, on a eu quelque chose de très intéressant dans notre pays, et malheureusement, c'est en train de partir. Mais ce moment s'est installé lors du débat sur les retraites. Vous vous en souvenez, pendant des mois, on a parlé, certes, de l'avenir du financement de notre système de retraite, mais il a beaucoup été question du travail, de sa nature, de son sens, de sa soutenabilité, de son utilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dont l'un des éléments de souffrance au travail peut être une mauvaise rémunération, mais ça peut être est-ce que ce que je fais est utile ? Est-ce que c'est considéré ? Il y a aujourd'hui des formes de management qui crée une souffrance au travail où les salariés se retrouvent dans des injonctions contradictoires, sont réduits à un tableur Excel, à un objectif à court terme, sans avoir les moyens. Quand les hospitaliers ont pris le pouvoir dans les hôpitaux, que les tableurs Excel ont disparu, que les ARS se sont fait un peu oublier et que les soignants ont dit « on prend la main, on prend le pouvoir, le service, on sait comment l'organiser ». Les salariés sont le plus souvent experts de leur travail. Ils savent très bien comment faire. C'est pour ça que je suis pour des droits renforcés dans les conseils d'administration pour que les salariés puissent décider beaucoup plus fortement la direction à prendre.
J'en reviens quand même au sujet de l'immigration. Cette thématique a-t-elle du sens dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui et notamment sur les métiers en tension pour combler un déficit qui, on le constate, Geoffroy Lejeune est patent. Il est réaliste.
C'est toute la propagande que je décrivais tout à l'heure. En fait, on nous explique aujourd'hui. Si vous voulez, moi, je trouve que le débat est mal posé en réalité. En tout cas, dans la manière dont le gouvernement l'a amené avec le ministre du Travail de l'époque, Olivier Dussopt, qui était associé à la loi immigration en disant, en gros, on va limiter l'immigration clandestine, mais par contre, on va accueillir des immigrés parce qu'on en a besoin. Il y a un problème quelque part. Dans l'équation, il y a quelque chose qui
notamment
marche pas.
Pour des médecins, pardonnez-moi, on parlait de la santé, notamment pour des médecins. Il y a beaucoup de médecins marocains ou de médecins roumains.
Je sais très bien.
En France.
Mais alors, il y a des médecins marocains, des médecins roumains, et il y a dans des tamouls ou des pakistanais, dans les cuisines des restaurants parisiens ou des restaurants français. Tout ça est vrai. Donc, si on rend, on rend plus accessible aux étudiants français la profession de médecin, on aura peut-être plus de médecins français. À ce que je sache, c'est pas une profession. Les facs de médecine sont pas vides. C'est juste que c'est très compliqué. Beaucoup échouent. On peut plus maintenant redoubler autant qu'avant, etc. Tout ça est très compliqué. Donc en fait, il faudrait permettre plus facilement et on aurait des médecins français et on n'aurait pas une pénurie. Et je pense pas qu'on aurait des beaucoup moins bons médecins. Et ensuite, il faut revaloriser les métiers. Je prends l'exemple de la cuisine parce qu'on est dessus depuis le début, mais en restauration, pour qu'on soit pas obligé de faire appel à des damnés de la terre qui viennent le faire pour moins cher et qui font le métier que personne ne veut faire. Pareil, on peut les revaloriser même sur le plan de l'estime. C'est un beau métier, la restauration. Tous les métiers qu'a cité Olivier tout à l'heure sont des beaux métiers. Le service, le lien, les soignants, tout ça, c'est très bien. Vous imaginez la logique dans laquelle on est. C'est infamant, c'est dégradant et on n'a pas envie de le faire, donc ça va être des étrangers qui vont le faire. Pardon, moi je trouve ça, c'est pas du tout être respectueux de l'immigration.
Ensuite, ça a été fait il y a 30, 40, 50 ans.
On vit là-dessus et ça arrange les belles âmes. Tout le monde est très content. Il est temps de le dénoncer. Donc c'est pour ça que la logique, là, parce que votre question c'est sur le projet de loi, oui, et c'est sur les métiers en tension, c'est la même logique en fait. Moi j'aimerais qu'on rompe avec cette logique. Je trouve qu'aujourd'hui dire il nous manque 30 000 personnes dans la restauration, faisons venir des immigrés, et ça oublie une chose. J'ai écouté ce qu'a dit Olivier, et ces gens qui viennent faire ce travail, qui sont courageux, etc. Évidemment il y en a, et je les blâmerai pas, et je comprends même pas d'ailleurs comment ils font pour tenir bon. Mais n'oublions pas une chose, c'est que le taux de chômage chez les étrangers est deux fois plus important que chez les Français. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas tous non plus. Il y en a aussi beaucoup qui viennent moyenne. Moi, je veux dire, quand j'entends les témoignages des migrants de Lampedusa qui connaissent le détail des prestations sociales auxquelles ils auront droit en France s'ils arrivent, il y a un petit projet qui n'est pas celui d'aller lancer une start-up, quoi, si je puis me permettre. Donc, il faut arrêter aussi avec cette propagande selon laquelle on va être sauvé par l'immigration de travail qui arrive avec ses bras parce qu'elle veut nous aider, etc. Il y en a aussi beaucoup qui viennent profiter. Et il y a une dernière chose qu'on oublie, c'est le ras-le-bol des Français sur la question de l'immigration qui n'est pas gérée. C'est même pas qu'elle est mal gérée, elle n'est pas gérée. Donc, on n'a pas endigué le phénomène depuis très longtemps. Elle est trop importante, on a des chiffres qui sont plus tenables et on a une Europe qui ne sait plus nous défendre. À partir de ce moment-là, créer des nouveaux appels d'air, quelles que soient les raisons, même si elles sont bonnes, en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On n'y arrivera pas si on ouvre des nouvelles façons. Chaque bonne intention, droit d'asile, étudiant étranger, devient une filière d'immigration. Étudiant étranger, on a multiplié par 5, mineurs isolés, évidemment pareil. Droit d'asile, on était à 130 000 l'année dernière, alors qu'à l'origine, c'est fait pour des milliers de personnes seulement. Donc, ouvrir une nouvelle catégorie, c'est ouvrir une nouvelle filière d'immigration qui va exploser elle aussi bientôt.
Est-ce que ce n'est pas aussi une indication de la valeur travail, ou en tout cas de la manière dont la population, dont les Français, voient le travail ou imaginent le travail? Est-ce que les Français sont feignants, par exemple, Olivier d'Artigolle, s'ils n'ont pas envie de travailler, même si il n'y a pas de saut métier, ils n'ont pas envie de travailler dans la restauration, dans le domaine de la santé, dans les EHPAD notamment? Est-ce que la valeur travail est dévaluée?
Ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, il y a beaucoup à réfléchir, je disais tout à l'heure, et à changer le travail aujourd'hui. Qui est impacté par des révolutions, par des évolutions spectaculaires. Donc il nous faut réfléchir à la nature de ce travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, à sa soutenabilité, à son sens. Moi, je vois, il faut autour de moi des gens qui peuvent être très épanouis dans leur exercice professionnel, très épanouis, et j'ai aussi autour de moi des gens qui le matin se lèvent et vont vivre une journée très très compliquée. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous surprendre, mais ça n'est pas uniquement, n'y voyez pas qu'un rapport une bataille de classe sociale. Il y a y compris des personnes sur aujourd'hui des salaires très corrects, sur des fonctions, y compris de direction, de responsabilité, qui souffrent au travail, au regard de ce qu'ils vivent. Donc, il nous faudrait une réflexion générale sur quel travail, pour quelle utilité, pour quelle société. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a aujourd'hui une forme, quand vous me montrez les chiffres du chômage, j'aimerais vraiment voir la nature du travail qui est créé. L'ubérisation dans des pans entiers d'activité humaine aujourd'hui. La manière dont cela se passe, le fait que des personnes certes travaillent, ces travailleurs pauvres, mais n'arrivent pas à vivre et survivre. Donc on a beaucoup de sujets. Donc on n'a pas un pays avec des personnes qui sont feignants, comme vous dites. On a un très grand nombre de personnes qui aujourd'hui ont une relation au travail déstructurée par des phénomènes qui sont au cœur du capitalisme financiarisé, mondialisé et court-termisme qu'on connaît. Voilà, vous savez, le père d'assaut, un industriel dans l'aéronautique qui était très établi sur la côte basque, Marcel Dassault. Disait quand il y avait un problème au travail, il disait bon allez les petits. Bon, il y avait du paternalisme patronal un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Il y avait une forme de compromis entre capital travail, une forme de dans un rapport de force. Hein. C'était rugueux. Mais le père d'assaut disait bon les petits, ils appelaient les petits, c'est un copain qui me dit ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bon ça je vais pouvoir. Ça non. Mais bon. Et donc il y avait une forme de le capitalisme savait à cette époque-là gérer les contradictions et établir des formes de oui, ce que j'appelle un compromis parfois historique. Aujourd'hui, tout ça a volé en éclats, oui, étant donné que c'est les fonds. Là, j'ai pas très loin de chez moi une entreprise qui a fermé parce que c'est un fonds de pension américain qui l'a décidé. Vous avez même plus l'interlocuteur en face de vous.
C'est peut-être, il n'a pas de visage. Ça, quand je parlais de flemme tout à l'heure, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a une augmentation, une recrudescence des arrêts maladie. Des congés maladie. C'est vrai que la prescription d'un arrêt plus long va nécessiter désormais, là c'est le ministre qui souhaite ça, un examen physique pour s'assurer que l'état de santé de l'assuré ne risque pas de s'aggraver, mais on comprend bien en creux, Geoffroy Lejeune, que c'est pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'arrêt de complaisance, parce que ce n'est pas tenable si un coup à droite, un coup à gauche, un jour, deux jours, trois jours, grâce à la téléconsultation notamment, on prend un jour de congé. Maladie.
Et vous imaginez depuis combien de temps ça dure? C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, ce sont des mesures de bon sens qui paraissent évidentes. Je pense que ça choquera pas beaucoup les Français. En fait, je vais essayer de répondre à votre question. Les Français sont-ils feignants? En fait, ils le sont devenus. on les a rendus feignants.
Je ne le crois pas.
En inventant, je veux dire, pas tous évidemment, mais évidemment. On est en train de parler d'une catégorie de la population qui ne veut pas travailler ou qui préfère rester dans l'inactivité. Ceux-là, ils sont devenus feignants.
Plutôt qu'aller sur les métiers en tension.
Mais bien sûr, mais attendez, voilà. On les a rendus feignants et on leur a permis de devenir feignants. C'est-à-dire que moi, j'entends des témoignages, mais tous les jours, en fait, le système français, si je devais le résumer en une phrase, c'est des gens qui bossent, qui sont écrasés de taxes pour financer l'inactivité de certains qui objectivement se moquent du monde. Et aujourd'hui, vous entendez je suis désolé, je parle. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de conversations avec des restaurateurs, donc je prends cet exemple-là.
Vous avez beaucoup au restaurant. Vous avez des déjeuners de boulot.
Ça m'arrive. Et surtout, ça m'intéresse. Donc je parle avec les voilà. Il y en a un qui m'a raconté récemment qu'il est évidemment dans recherche de personnel parce que c'est la galère. Il fait ça avec sa fille, et il se crève à la tâche et il cherche quelqu'un. Et il y a une annonce qui est postée. Quelqu'un vient le voir en disant, par contre, moi, c'est 10 heures parce que sinon, je perds mes aides. Et c'est ça la France en fait, aujourd'hui. Je viens travailler 10 heures, oui. Parce que c'est ce dont j'ai besoin pour garder mes aides. Par contre, travailler une heure de plus, ce qui me ferait perdre mes heures, ou le double, ce qui me ferait gagner plus d'argent, mais je perdrais mes aides alors qu'elles me permettent de rester chez moi à rien faire, c'est intolérable.
On souffre de l'assistanat.
C'est un vrai fléau. Et en réalité, votre question du début sur l'augmentation des primes, l'augmentation des salaires, des métiers compliqués, etc., on pourrait augmenter plus si on arrêtait de verser autant d'argent à des gens qui ne font rien. Ça, c'est un problème. Et des gens, qui ne méritent pas leur inactivité.
On se retrouve dans quelques instants. On marque une pause. On se retrouve avec Olivier Dartigol et Geoffroy Lejeune dans Ça se dispute. Très très bonne demi-heure. Je vous félicite. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. On fera un point sur l'actualité également. A tout de suite. Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune et Olivier Dartigol pour nos thématiques. On se retrouve dans quelques instants en direct. Mais d'abord, un point sur l'actualité. Simon Guillain. Bonsoir, Simon.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Le gouvernement veut agir davantage contre les punaises de lit. Une réunion d'ailleurs se tiendra la semaine prochaine avec les opérateurs de transport pour tenter de protéger au maximum les voyageurs. La mairie de Paris a réclamé un plan d'action et sachez que près d'un foyer sur 10 est touché sur le territoire français. L'inflation dans la zone euro chute à 4,3% sur un an en septembre. C'est son niveau le plus bas depuis octobre 2021. L'inflation reste néanmoins toujours au-dessus de l'objectif des 2% fixé par la Banque Centrale Européenne. Et puis les sportifs russes autorisés à participer aux Jeux Paralympiques de Paris qui se tiendront du 28 août au 8 septembre 2024. Une participation qui se fera néanmoins sous bannière neutre. La décision a été rendue cet après-midi par l'Assemblée Générale du Comité International Paralympique.
Merci Simon Guillain, vous retrouvez à 22h pour un prochain point sur l'actualité. Ça se dispute, deuxième partie avec Olivier Dartigol, avec Geoffroy Lejeune et les dirigeants des 9 pays méditerranéens de l'Union européenne qui se sont retrouvés à Malte aujourd'hui pour accorder leur position en particulier sur l'immigration. Vous le savez, avec cette crise migratoire à Lampedusa notamment, ils ont appelé à une réponse unie et structurelle face à cette crise, à l'image d'Emmanuel Macron que l'on écoute tout de suite.
La situation que nous vivons depuis plusieurs mois. Et la situation exceptionnelle à Lampedusa, par son ampleur, appelle très clairement une réponse européenne unie et nous conduit tous à faire preuve de solidarité avec l'Italie, comme nous devons faire preuve de solidarité avec tous les pays de première entrée, car c'est toucher le sol italien, ce dont il s'agit, et quand la Grèce ou l'Espagne le vivent aussi, nous devons avoir la même solidarité.
Il y a de bonnes intentions, Olivier Dartigol, mais est-il possible d'avoir une vision commune et appliquer cette vision, notamment pour les neuf pays dont on parle?
Giorgia Meloni a été élue il y a un an après une campagne dont le thème où l'immigration avait une place centrale, structurante, et avec des propositions précises, comme l'organisation d'un blocus maritime et le fait de tordre la main, j'ai envie de dire, à l'Union européenne, d'établir un rapport de force rude face à eux. C'est sur ça qu'elle a été élue. Le rapprochement de la dernière période Mélanie-Macron, assez spectaculaire au regard des propos qu'avait tenus le ministre de l'Intérieur il y a quelque temps concernant les Italiens, montre que cette politique qui avait été annoncée n'a pas pu être mise en œuvre. On peut parler d'ailleurs pourquoi elle n'a pas pu être mise en œuvre. C'est-à-dire que les financements européens aujourd'hui sont importants. C'est exactement d'ailleurs ces financements européens qui ont fait que le gouvernement a voulu accélérer via la motion, via le 49.3, notre loi de financement des finances publiques. Il y a donc là quelque chose qui s'installe avec ce rapprochement France-Italie demandant une politique coordonnée à l'échelle européenne. Mais avec, on va voir, c'est passionnant à suivre, quelques sujets, quelques points durs où je ne vois pas les choses avancer. J'en prends deux. Parce que je crois beaucoup à l'idée qu'on doit davantage réfléchir dans le débat national sur pourquoi des gens partent. La guerre, la misère, le fait, cette énergie humaine qui fait que j'ai envie de changer les conditions de ma vie, améliorer mes perspectives, sortir de cette situation qui n'est pas supportable et aller ailleurs. Non pas parce que l'herbe est plus verte, mais parce que tout simplement ma situation là est insupportable. Mais sur la politique de développement, qu'est-ce qu'on peut faire de différemment pour que ça marque des points, pour que des gens justement se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus envie de partir, où ils n'ont plus la nécessité. Sur les pays de transit, est-ce qu'on va un peu creuser la situation dans la question concernant notre lien à la Tunisie notamment? Que s'est-il passé sur la toute dernière période? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et on verra s'il y a la possibilité d'une réponse européenne coordonnée. Sauf que les amis politiques de Giorgia Meloni, plutôt à l'est du continent européen, ne sont pas du tout sur cette feuille de route-là.
Oui, mais vous l'avez constaté en effet, vous l'avez dit Olivier d'Artigol, la France et l'Italie, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, peut-être par défaut, Geoffroy Lejeune, ont trouvé
ils font des propositions communes.
Hein, ils font des propositions communes, et notamment sur les pays de transit, sur la Libye et la Tunisie notamment. Emmanuel Macron dit, c'est son sujet depuis fort longtemps, maintenant il faut travailler, envoyer des équipes et travailler avec des personnalités, des personnes sur place. En Tunisie,
ouais,
notamment.
Ça n'a pas marché, donc il faut continuer. Ouais. C'est un peu ça le résumé.
Bah parce que ça n'a peut-être pas été fait dans de bonnes conditions.
Alors, moi, je peux vous raconter comment ça s'est passé pour l'instant, parce que j'ai envie de reprendre l'argumentaire d'Olivier, de répondre point par point, ou de le redérouler dans l'autre sens.
Vous partez pas du même endroit, alors.
Et si, justement, si, à situation égale, raisonnement différent. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Meloni? Parce que c'est pas exactement. Enfin, il n'y a rien de faux dans ce que vous avez dit. Mais par contre, vous avez omis certains détails qui changent tout. C'est-à-dire qu'elle est en effet élue sur un ras-le-bol contre l'immigration et une grande inquiétude de la part des Italiens, avec une promesse claire qui est « avec moi c'est terminé, blocus maritime, etc. etc. » Et aussi, collaboration avec la Tunisie pour éviter que... Voilà, ok, ça elle l'a fait. Elle l'a fait, mais ça n'a pas marché. Et ensuite, elle prend un coup de pression gigantesque, ça s'appelle un pistolet sur la tempe de l'Union Européenne, qui la menace, si jamais elle va au bout de ses idées, de lui sucrer les subventions européennes dont l'Italie a besoin, parce que l'Italie est un pays exsangue sur le plan financier. Et là, première pause, on s'arrête une seconde, tous les amoureux de la démocratie devraient crier au scandale.
Oui, mais on savait que l'Union européenne allait agir de cette manière-là. Vous pouvez contester la méthode. Vous avez raison. On savait très bien que ce pistolet sur la tempe, il serait actionné quelques mois après.
Et donc en fait, il y a deux manières de se positionner. Soit on trouve ça normal, soit on trouve ça scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux.
Il y a aussi parfois de la réelle politique.
Mais c'est pas
la
réelle politique. Non, mais ce sont des gens non élus qui menacent de couper les vivres à un pays donc qui vient d'élire démocratiquement une dirigeante sur un programme, comme vous l'avez dit, extrêmement clair.
Regardez ce qui s'est passé pour la Grèce.
Je veux tout ce que vous voulez. Mais on peut pas dire qu'on va réinventer l'Europe, plus démocratique, et faire ça. Ça ne marche pas. Ça, c'était la première pause. Ensuite, la deuxième, c'est ce qui s'est passé sur le cas de la Tunisie précisément. Parce que pour éviter justement d'en arriver au blocus maritime, elle passe un deal en fait avec le président tunisien qui lui-même sur la question de l'immigration a des positions un peu tranchées. Elle promet, je crois, autour de 150 millions d'euros à la Tunisie. J'ai lu plusieurs chiffres, mais disons dans ces eaux-là. Donc c'est une somme
rondelette
et en même temps, on voit tous les jours des milliards déversés partout. Donc après tout, pourquoi pas versé par la Commission européenne pour que la Tunisie fasse ce que fait la Libye, fasse ce que fait la Turquie, c'est-à-dire retienne les migrants chez elle plutôt que les laisse venir sur le sol européen. Ces millions ne sont jamais arrivés en Tunisie. Comment ça s'est passé? C'est la gauche italienne qui a œuvré dans les cénacles européens pour faire capoter l'échange. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que par idéologie, c'est la suite du fait d'avoir menacé de sanctions financières l'Italie, par idéologie, la Commission a décidé de ne pas verser la somme correspondant à cet accord. Donc, Lampedusa, c'est la conséquence directe de ça. C'est le président tunisien qui dit « Attendez les gars, on a fait un deal, j'attends ma somme, je fais le boulot à votre place, l'argent ne vient pas, j'ouvre les vannes et vous allez voir ce que vous allez voir. 12 000 personnes à Lampedusa, on a vu. » Donc, moi, je veux bien dire que Mélanie est nulle, j'ai aucune action dans son parti, je m'en fiche complètement. Et qu'elle a échoué, c'est une certitude. Mais elle a échoué parce qu'on l'a fait échouer. Ça change quand même beaucoup de choses.
Vous avez eu raison de compléter pour expliquer ce qui s'est passé sur le dossier tunisien, pourquoi ça a bloqué. Vous avez eu raison de prendre cette image du pistolet sur la tempe, puisque c'est le cas. Reste que, est-ce que selon vous, une réponse adaptée sur ce défi migratoire passe par le niveau européen, par une nouvelle forme de débat politique, et on a des élections européennes, c'est intéressant, par une nouvelle politique européenne, un nouveau pacte qui va être discuté prochainement, ou que, comme je pense que vous pouvez le penser et le croire, la solution ne sera qu'à l'échelle des États-nations et que toute coordination politique à l'échelle de l'Union européenne est vouée à rester dans ce que vous décrivez, alors qu'on peut très bien avoir un projet pour transformer les règles européennes sur ces questions-là.
Mais en fait, la question ne se pose malheureusement pas comme ça. J'adorerais pouvoir répondre à cette question. Mais est-ce que... Alors, je vais vous faire plaisir. Moi, le nationaliste, je vais vous faire plaisir. Est-ce que tout seul, la France, on peut résoudre ce problème? Probablement pas. On pourrait se barricader et probablement moins de gens entreraient, mais il y aurait toujours...
Ils continueraient à rentrer, vous le savez.
Voilà. Donc je vous donne le point là-dessus. Le problème, c'est que vous avez entendu Emmanuel Macron tout à l'heure qui parle d'une situation exceptionnelle à Lampedusa. Pardonnez-moi, on accueille en France 400 000 personnes par an, dont beaucoup de clandestins. C'est pas exceptionnel ce qui s'est passé à Lampedusa. C'est spectaculaire parce qu'on l'a vu avec des images, etc. Mais globalement, c'était une goutte d'eau par rapport à ce qui
ça
nous arrive.
C'est massif sur une courte période.
Exactement. Voilà. D'où les images, etc. Mais c'est ce qui se passe tout le temps. Et 400 000 personnes par an, et il y en a beaucoup qui viennent par là. Premièrement. Deuxièmement, solution européenne. Ça me fait doucement rire. C'est pour ça que j'ai raconté toute l'histoire de l'Italie. Solution européenne menée par des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait à l'Italie. Je n'y crois pas une seconde. Ce sont des gens, les gens qui dirigent l'Europe aujourd'hui. Donc la Commission européenne, la majorité au Parlement européen et des dirigeants influents comme par exemple Emmanuel Macron. Quelle est leur Europe sur le plan de l'immigration? C'est une Europe qui met 2 ans à répondre à une question posée à l'initiative du patron de Frontex par 16 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne sur la possibilité de repousser des migrants qui veulent rentrer illégalement. Ils ont mis 2 ans à répondre. Pour répondre que finalement on ne pouvait pas les empêcher de rentrer. C'est une Europe qui définit comme port sûr dans la Méditerranée seulement la Libye, je rigole, port sûr, pays esclavagiste, etc. et les ports européens. Donc ça veut dire que vous arrêtez un bateau qui vient de Tunisie, vous ne pouvez pas le renvoyer en Tunisie, ce n'est pas jugé comme un port sûr. C'est l'Europe qui a décidé de ça. C'est l'Europe qui a décidé de ça. C'est une Europe qui vous interdit. En fait, si, pour résumer la situation construite par notre Europe, quand un migrant décide de monter dans une embarcation au départ de la Tunisie, plus rien ne peut l'empêcher de s'installer à Romorantin. Plus rien.
Plus et rien. Donc, si la solution n'est pas à l'échelle des nations... On a vu avec l'exemple italien que ça ne pouvait pas fonctionner. Si la solution n'est pas de rester dans avec l'Union européenne telle qu'elle dysfonctionne très largement sur ce sujet-là comme sur d'autres, il y a quand même à réfléchir, et j'espère que les mois à venir sur les débats des Européens le permettra, à quelle nouvelle politique européenne en termes de gestion de la politique migratoire.
C'est-à-dire si déjà
on se met d'accord sur le fait que ça passe par une coordination européenne, déjà on a fait, si ce n'est la moitié du chemin, déjà on pose le cadre des futures réponses et des futures solutions. Parce que je pense par ailleurs qu'il peut y avoir des solutions. Alors je sais très bien que je lance un pavé dans la mare, mais je pense qu'on sera obligé au regard d'un certain nombre de données, de considérations, d'évoquer des voies régulières et sécurisées de migration. Je pense qu'on sera obligé de revoir de fond en comble la politique d'aide au développement, qu'on sera obligé d'avoir un échange avec les pays de transit qui ne se passe pas comme ça se passe aujourd'hui sur le truc. Bon, vous avez touché votre fric, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec d'autres pays. Voilà, je pense qu'il y a de nouveaux rapports à établir, politiques et quasiment, y compris humains parfois.
Geoffroy Lejeune. En fait, j'adorerais que vous ayez raison. J'adorerais que ça puisse se passer comme ça, que la discussion se passe comme ça, etc. La discussion se passe entre des gens. C'est encore l'extrait qu'on a vu tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Il parle de solidarité avec l'Italie. Mais il dit pas dans quel sens doit aller la solidarité. L'Italie voudrait repousser les migrants qui arrivent. L'Europe le lui interdit. Donc le mot solidarité, le débat n'est posé que...
Pour lui, solidarité, c'est pas se comporter comme le fait l'Allemagne. Je comprends ça.
J'ai compris, mais... Le débat ne se pose avec les gens qui gouvernent l'Europe aujourd'hui que en des termes de comment on fait pour éviter que les gens se noient en faisant la traversée. À aucun moment on essaie de dissuader ou d'empêcher la traversée. Et en matière de répartition de la misère. C'est tout. La question ne se pose que comme ça. À partir du moment où le préambule de la discussion c'est il y a des millions de gens qui veulent venir chez nous et on ne les empêchera pas, on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter de juguler l'immigration, mais même votre débat sur... moi, je trouve ça passionnant. Comment faire en sorte que l'Afrique se développe pour éviter que les gens aient envie de venir, etc. Bon, déjà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu moins notre problème quand même. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, l'Afrique peut aussi se développer toute seule. C'est un pays de grands garçons, quoi. Oui. Et premièrement. Et ensuite, on n'aura pas ce débat. Ils ne veulent pas empêcher ça.
et travailler sur les pays de transit comme le souhaiteraient apparemment Giorgia Meloni et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est possible parce que l'Union européenne ne peut pas imposer des normes à un État souverain?
Vous avez raison.
C'est un État souverain.
Vous avez raison.
Donc on va leur dire, on va vous envoyer des gens qui vont travailler sur votre sol. Non, et la Tunisie va devoir l'accepter.
Le seul argument, il est financier, malheureusement.
Vous posez une bonne question. C'est-à-dire déjà, leur parler comme un État souverain, c'est déjà pas trop mal. C'est une belle manière
dans un premier temps.
Une
mais si en plus de leur imposer une méthodologie, c'est encore...
Sur faire venir les spécialistes ou des personnes ressources, on a vu avec la Grande-Bretagne comment ça pouvait se passer. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de compétences. Il y a besoin d'une discussion et d'un accord politique. Il est à construire.
Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est l'art de la diplomatie. Mais il y a beaucoup de choses à changer dans la manière même de regarder et de s'adresser aux partenaires.
Et ça pose une question de souveraineté totalement symbolique, Geoffroy Lejeune, sur la Méditerranée, puisqu'on parle des 9 pays européens de la Méditerranée. On parle évidemment du continent africain aussi avec la Tunisie et la Libye. Donc tout se déroule dans cette Méditerranée-là. Mais qui a la souveraineté finalement sur la Méditerranée, la fameuse Mare Nostrum? Elle appartient à qui? Qui dirige? Qui décide? Est-ce que c'est la Méditerranée de l'Union européenne ou est-ce que c'est la Méditerranée des migrants désormais?
Par la force des choses, elle est partagée et on a comment dire? Toutes les règles dont je parlais tout à l'heure que nous avons édictées favorisent aujourd'hui les migrants. Je vous dis, en fait, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'arriver. C'est-à-dire que vous parlez de souveraineté. Le mot, enfin, c'est vraiment exactement le mot. En fait, même dans la question des pays de transit. Je ne trouve pas ça sain et je ne trouve pas ça souverain aujourd'hui que le destin des flux migratoires soit entre les mains de quelqu'un comme Erdogan, comme ce qui reste de dirigeants libyens et même comme c'est un pacte honteux et par ailleurs c'est un moyen de pression tout à coup. Dès qu'il y a quelque chose qui déplaît à Erdogan, il menace d'ouvrir les vannes et de laisser se déverser le million de migrants qu'il a gardé chez lui. Donc en fait c'est pas du tout sain. C'est pour ça que je pense qu'on peut retourner la question dans tous les sens. À la fin, tant qu'on n'aura pas envoyer un message à l'Australienne, c'est-à-dire vous n'entrez pas. En fait, il faudra qu'un jour il y ait une image d'un Ocean Viking quelconque qui soit reconduit d'où il vient. Pour l'instant, nos règles, le droit ne le permet pas. Mais qui soit reconduit d'où il vient et désolé les amis, maintenant vous passez plus. Ça dissuadera des départs, ça dissuadera des traversées et ensuite couper les pompes aspirantes qui donnent envie aux gens de venir chez nous. C'est-à-dire,
j'entends le message que vous voulez adresser, mais si les pays de départ ne refusent l'accostage du bateau. On a vécu ça à de nombreuses reprises.
Oui, je suis d'accord, bien sûr. Non, mais ça peut pas faire de mal. Mais ce que je veux juste dire, c'est encore une fois, c'est pas souverain. Si on compte sur la Tunisie pour l'immigration...
Et là-dessus, on est en désaccord, je le sais, sur ce sujet, que le droit international maritime, que ce soit, mais pour de vrai, le port le plus proche, ou ces damnés de la mer, pas de la terre mais de la mer, puissent accoster pour pouvoir être secourus, pris en charge.
Et c'est tout le contrôle de la Méditerranée, justement, les eaux territoriales et puis toute la Méditerranée dans son ensemble. Voilà pourquoi on s'interrogeait aussi sur le fait de demander si c'était la Méditerranée des migrants ou celle de l'Union européenne. Quelques minutes encore pour un tout dernier sujet qui a fait qui a eu beaucoup de résonance et qui a fait écho ces derniers temps. C'est tout autre chose, évidemment, c'est la séquestration, le fameux homejacking, pour utiliser le terme anglais. L'animateur Bruno Guillon, sa femme, leur fils ont été séquestrés chez eux par 4 individus qui ont volé des bijoux, des sacs de luxe chez cet animateur qui vit dans les Yvelines. D'autres personnalités, Geoffroy Lejeune, sont assez fréquemment victimes de homejacking. On l'a vu, notamment des footballeurs du Paris Saint-Germain. Donnarumma, le gardien du PSG, l'a été récemment. Est-ce que vous avez le sentiment que cela illustre la haine des riches? C'est-à-dire que ce sont des cibles, désormais, et que, à l'image peut-être de certains casseurs pendant des manifestations qui vont s'attaquer à des banques, qui vont s'attaquer à des magasins de luxe, à des marques, à des symboles, bien là, on s'attaque là aussi à des symboles, mais essayer de leur retirer de l'argent.
Ah, c'est drôle, je l'aurais pas vu comme ça, pour être honnête. En fait, pour moi, la haine des riches, c'est les campagnes débiles contre Bernard Arnault, lui cracher dessus quand il donne des millions d'euros au Resto du Cœur, etc. Ça, c'est vraiment de la bêtise pure. Moi, ce que je vois dans le homejacking et ce que je vois dans ces affaires qui touchent des personnalités réputées riches, c'est, comment dire, la décontraction absolue, la montée en puissance du grand banditisme, en fait. C'est cambrioler quelqu'un, Alors, ça existe depuis toujours. Il y a des exemples très célèbres, etc. Mérine avait commencé en son temps. Bien sûr, c'est pas nouveau. Mais la multiplication, notamment, vous avez donné l'exemple des joueurs de foot. L'équipe du PSG, l'équipe, alors pas la nouvelle parce qu'ils viennent tous d'arriver, mais l'équipe de la saison dernière, il y avait 4-5 joueurs qui avaient été victimes de cambriolage ou de homejacking. Moi, je me souviens d'une scène surréaliste où un joueur quitte le terrain en plein match parce que l'entraîneur le fait sortir. Lui, sait pas pourquoi.
Angel Di Maria.
Angel Di Maria, parce que sa femme était retenue cambriolée, enfin, otage dans sa maison. Et ça, la multiplication de ça ces derniers temps, je pense que c'est ensauvagement, décivilisation, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est une preuve de plus, c'est-à-dire que le grand banditisme aujourd'hui a de moins en moins de limites. C'est comme d'aller braquer une boutique, place Vendôme, avec des fusils à pompe. En fait, il y a de moins en moins de limites, il y a de moins en moins de peur, de la fameuse peur du gendarme, et donc on voit de plus en plus grand du côté du grand banditisme.
Mais Olivier Dartigolle, il y a certes l'appât du gain quand on braque une bijouterie, quand on essaie de voler des bijoux à une personnalité. En fait, effectivement, il y a cette aspiration financière, mais il y a aussi le fait de viser des personnalités people, des personnalités dites riches. On sait que ces personnalités ont normalement de l'argent, des montres de luxe. C'est Bruno Guillon qui disait, ils ont remarqué sur les réseaux sociaux que je portais une montre de valeur. Donc voilà pourquoi ils ont enquêté.
J'ai trouvé qu'il a eu un comportement après ce qui lui est arrivé, le pauvre, remarquable, dans la manière dont il a réagi. Mais ça a toujours existé. C'est-à-dire que, bon, là, c'est plutôt surdimensionné. Il y a d'autres aspects avec...
Il y en a de plus en plus, quand même.
Attendez, ça a toujours existé. Là, il y a les côtés réseaux sociaux, il y a les côtés foot business, etc. Mais ça a toujours existé, mais ça a parfois changé dans la forme et dans le style. Je ne veux absolument pas faire le prosélytisme de ces modes d'action, parce que c'est bien sûr du banditisme. Mais bon, il n'y a plus d'Arsène Lupin qui posait une fleur sur le piano et qui faisait... Il y a eu aussi des grands du banditisme il y a quelques années. Ça a inspiré des films qui n'ont jamais voulu verser une goutte de sang, qui travaillaient proprement, qui allaient en effet prendre l'argent où il est. Et qui ont pu susciter donc une forme d'une association entre ces images du grand banditisme et une certaine forme de gentleman, voilà, dans leur comportement.
Oui, mais y avait-il la haine du riche?
Non, mais c'est pas la haine. Je ne vois du tout dans ces trucs-là un message politique comme ça. Ils vont là où ils pensent qu'il y a beaucoup d'argent. Et quand vous faites ce type de coup, vous avez plutôt intérêt à aller là où vous pensez que le magot sera élevé, plutôt que d'aller ailleurs. Je n'y vois pas une...
Entre un homme d'affaires et un milliardaire, pardonnez-moi, et Bruno Guillon,
vous avez raison, mais c'est là où il y a les questions des réseaux sociaux. Oui, mais c'est là une question des réseaux sociaux aussi, une déculturation, pensant que quelqu'un à la télé peut, etc. Bon, mais ce que je veux simplement dire, pour moi, ça a toujours existé, mais c'est les formes, c'est la manière dont aujourd'hui ça se passe qui ont évolué.
Est-ce que c'était pas une...
Mais il ne faut... Je ne veux pas verser dans le soutien de ce qui pouvait se faire avant.
Bien évidemment. Voilà, hein. Mais on a l'impression qu'il y a un décalage. Il y a toujours cette aspérité, cette volonté de prendre de la valeur, de l'argent, oui, évidemment, de voler, de cambrioler. Oui. Ce sont des voyous. Mais il y a aussi peut-être le symbole. Quand je parlais de haine tout à l'heure, ça peut être cautionné aussi par une certaine catégorie politique. Personne ne s'est ému de ce qui s'est passé, politiquement parlant, je veux dire, chez Bruno Guillon, à gauche, à l'extrême gauche.
Oui, non.
Ah bon?
Pardon.
Alors, pardonnez-moi, alors j'ai pas vu.
Je pense qu'on peut, quelle que soit notre sensibilité politique, qu'on peut adresser notre plus ferme soutien à la personne qui dit ça.
Non, mais Olivier, de manière ferme. Olivier confond souvent les questions sur la gauche avec lui-même. Vous n'êtes pas, tous les hommes de gauche.
L'écrasante majorité,
vous n'incarnez pas toute la gauche.
L'écrasante majorité des personnes qui se sentent de gauche condamnent ce qui s'est passé. Je vous assure. Donnez pas toute la gauche, notamment son électorat. Si vous regardez les dernières enquêtes d'opinion, c'est intéressant de voir le décrochage entre l'électorat et certaines positions d'une certaine gauche.
Mettons l'électorat de côté. Les représentants, pour le dire plus clairement, de la France insoumise, en effet, se sont peu émus du homejacking chez Bernard Tapie, se sont peu émus des homejacking chez les joueurs de l'équipe du PSG et de Bruno Guillon. C'est un peu moins leur cam. Ils ont des indignations. À ça, elles sont très nombreuses. Mais par contre, là-dessus, c'est vrai qu'on les entend un peu moins. Je comprends mieux votre question sur la haine des riches, etc. Là, il y a un...
J'ai pas été... J'ai n'était pas suffisamment clair.
C'était pas très clair.
Je pensais.
Tout a été très bien sur l'émission, ouais, mais là, c'était pas clair.
Mais je pensais que votre sagacité intellectuelle allait percevoir quel était le message. Vous voyez, je voulais vous attirer.
À 22h.
Dans ce piège, pas à cette heure-là.
Dans l'exploitation politique, là où vous avez raison, dans l'exploitation politique de la chose, il y a de la politique, en effet.
Ah, d'exploitation, oui.
Et il y a des indignations. En fait, les indignations disent énormément de ce que pensent les gens. En l'occurrence, la France Insoumise, elle a des indignations. Je veux dire, elle passe 6 mois sur Naël alors que l'enquête n'est pas bouclée. Elle passe, dès qu'il y a une gamine qui se fait retirer son abaya, elle monte au créneau, elle fait des manifestations, etc. Et elle pleure sur Twitter. Là, on les entend beaucoup moins. En revanche, moi, je pensais que vous parliez des ravisseurs eux-mêmes. Oui. Et là, pour le coup, c'est très compliqué de sonder leurs intentions. Et moi, là où je pense que pour le coup, on ne peut pas y voir dans la question de ceux qui vont faire le braquage eux-mêmes, une motivation politique, etc. Je suis d'accord avec Olivier, il y a l'appât du gain. Mais c'est surtout qu'en fait, vous regardez, vous pouvez constater que ce type de violence augmente. Tout comme les violences gratuites en réalité.
Mais exactement. Et ces braqueurs-là, tout cas, ne sont pas forcément issus du grand banditisme. On n'en sait rien. Des émeutiers, peut-être des casseurs dans des manifestations de réforme contre la retraite, notamment. On n'en sait rien. C'est pour ça que je posais cette question. Ouais. Fin du débat, en tout cas, provisoirement. Mais merci d'avoir participé à cette dispute. C'était un véritable plaisir. Je vous redonne rendez-vous demain pour une nouvelle émission, cette dispute, à partir de 21h. Mais dans quelques instants, c'est Soir Info. Avec Olivier de Clérenfec, et vous restez avec nous sur CNews.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.